Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est votre émission du samedi matin qui dynamite votre réveil. Je vous rappelle le principe en deux mots, il s'agit de former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers qui se déroulent à la bibliothèque Saint-Corneille, en classe lorsque je travaille avec des établissements scolaires ou dans un autre lieu insolite comme celui de l'atelier de la Dame aux Fleurs. Ensuite, nous enregistrons les productions de nos participants sous forme d'émissions, et c'est-à-dire notre matinale infernale bien sûr. Moi c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume, les rendez-vous culture et séries des bibliothèques de Compiègne, ou même le Tilt Show, cette émission sur le poker. Rien à voir, en tout cas des sujets très variés. Aujourd'hui, on va avoir avec nous quatre chroniqueurs dans le studio. Elsa.
Bonjour.
Qui va nous parler du Japon, comme à son habitude, ce pays magnifique du soleil levant, comme elle le dit elle-même. Nous avons bien sûr Fatih, la féministe, qui continue son combat.
Hello tout le monde.
La marin baladeuse.
Bonjour.
Qui va nous emmener en balade, bien sûr. Et comment tu dis, écouter peut-être ?
Et déguster peut-être.
Ah, et déguster peut-être, pardon. Et pour finir, notre émission est bien commencée notre week-end, ce sera avec Bad Cave.
Hello.
Et ces chroniques post-punk pour vous plomber le moral, évidemment. C'est stylé, non, comme programme ?
Très stylé. Allons-y, let's go !
Avec joie.
Et bonne humeur.
Mais oui, toujours. Eh bien, on va commencer avec Elsa.
Prêt pour un nouveau départ pour le Japon ? Oui, me direz-vous. Et vous avez raison de vouloir retrouver ce pays merveilleux. Aujourd'hui, on parle de la gastronomie japonaise. Bonne dégustation !
Miam miam !
En France, comme dans beaucoup d'autres pays, l'emblème de la gastronomie japonaise est le sushi. Cependant, il ne s'agit pas d'un élément réellement traditionnel de cette cuisine. Le cliché « sushi » a en réalité été apporté en Europe au XVIIe siècle, lorsque des bouddhistes japonais exportèrent des cargaisons de sushis vers l'Occident. En France, en 2013, notre pays est devenu le plus grand consommateur de sushis en Europe. En moyenne, 22% des Français disent en commander au moins une fois par mois. Selon une étude du TNS de Sofre, c'est le deuxième plat à base de poisson le plus consommé par les Français. Et beaucoup d'entre nous croient que ces fameux sushis sont un plat typique du Japon, alors que pas du tout. Pour y voir un peu plus clair, faisons un tour d'horizon des plats réellement traditionnels du Japon. Les ramen sont des plats de nouilles chinoises mélangés avec du bœuf ou du poisson le plus généralement. Le bouillon est la plupart du temps à base de soja. Il y a aussi des légumes, des vermicelles. Ce plat est très prisé au Japon et on trouve quelques restaurants en France qui en préparent. Je vous conseille vivement d'en goûter.
Il y en a d'ailleurs un à Compiègne, un restaurant de ramen.
Les teriyaki sont des brochettes de bœuf ou de porc imbibées de sauce soja. Légèrement fumée, la viande est exquise. Il y a 3 à 4 morceaux de viande sur chaque brochette, si bien que l'on consomme environ 4 piques. Filez-vous goûter ces brochettes délicieuses. Le donburi est un bol de riz. Enfin, pas uniquement de riz. On y trouve également de la viande de bœuf, la plupart du temps. Des tranches de saumon fumé, de la salade, des algues nori, etc. Ce plat très garni est bien équilibré, il y a de tout. De plus, comme il est facile à préparer, c'est l'un des plats préférés des Japonais. Donburi signifie « grand bol » en japonais. Plutôt significatif. Le yakiniku est le barbecue japonais. Yakiniku signifie « viande grillée ». C'est une méthode de cuisson qui vient de Corée. La viande, souvent du bœuf, du porc ou du poulet, est coupée en fines tranches et trempée dans une sauce au soja, saké, huile de sésame ou encore miso. Le grill est placé au centre de la table pour que les invités puissent y chauffer leur viande marinée. Le yakiniku est idéal pour se régaler tout en passant un moment convivial. Nous avons donc vu quatre plats très prisés dans notre cher pays du soleil levant. Si vous voulez régaler vos papilles, pas de doute, vous devez faire un détour par le Japon. Hélas, se nourrir n'est pas donné dans ce pays que nous aimons tant. Le moindre bol de riz coûte 700 yens ou plus, soit 5 euros ou plus. Ce bol de riz, tout simple, sans accompagnement, à peine une part. Donc imaginez un peu pour des plats huppés comme les ramen. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour vous en apprendre toujours plus sur le pays du soleil levant.
Merci Elsa. Donc en gros, si on veut bien manger au Japon, il faut venir avec les poches pleines de billets, quoi.
Oui, c'est ça.
Ok, c'est noté. Bon, je sais pas s'il est pas déjà un peu tôt pour nos auditeurs pour avoir tous ces plats en tête, mais ça les a sûrement alléchés pour ce midi. On en reparlera. Peut-être que, par contre, une petite vague de rébellion, là, pour se lever, sortir du lit, ça peut le faire.
Oui, ça va leur donner faim. Hello tout le monde, petite chronique donc du matin, histoire de bien commencer la journée. Et pour cela, je vous emmène faire un tour au pays du suffrage féminin aux élections. Parce que oui, sous l'impulsion de la première vague féministe, il a fini par nous être accordé ce droit de vote si essentiel au bon fonctionnement de nos démocraties et donc de nos vies, tout comme nos hormones le sont, essentielles au bon fonctionnement de notre corps. Et pour info, les dates qui vont suivre sont répertoriées dans une cartographie du journal Le Monde du 21 avril 2025. Voilà, vous pourrez aller vérifier, si le cœur vous en dit, ou le temps d'ailleurs. Alors, petite devinette pour commencer. Quel est le premier pays où les femmes ont eu le droit de vote en 1893?
L'Australie.
Non, pas loin. Oui, j'ai entendu.
Ah oui, Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande. En 1893, loin de chez nous, dis donc. 24h50 de vol avec escale, genre à Singapour, je crois. 1902.
L'Australie.
On a dit l'Australie, ouais, toujours aussi loin.
Ce sont en fait un peu copiés, quoi.
Oui, c'est ça. Effet boule de neige, on appelle ça. Mais ceci dit, en Australie, on ne l'a pas donné aux femmes aborigènes. Pardon. Voilà, c'est un petit détail, mais important.
Mais aux hommes, oui.
Ouais.
Okay. Ah, aux hommes aborigènes, oui.
Ah, aux hommes. Ah, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie ce petit point. Mais je m'intéresse surtout aux femmes, vous voyez. Alors, 1906, on revient en Europe. Dites-moi, dans le nord de l'Europe. Oui, dans le nord. Pas loin.
Finlande.
Oui, Finlande, dans les pays nordiques. 1913, encore un petit pays nordique, pas très loin.
Norvège,
Youhou, bravo. Donc 1913, Norvège. 1913, toujours Islande ou Danemark. 1918, le Canada. Mais attention, ne peuvent voter que les femmes blanches. Hein. Celles d'origine asiatique attendront 1948. Et l'ensemble des peuples autochtones au Canada, 1960. Et ouais. 1918, le Royaume-Uni. Mais c'est que si tu as plus de 30 ans et si tu es propriétaire. Bon, voilà. Alors, il faudra attendre 1928 et là, il n'y aura aucune clause abusive. Alors maintenant, devinez, 1919.
Belgique.
Non, fin Première Guerre mondiale.
On est en Europe toujours.
Oui, en Europe toujours.
Allemagne,
bravo. Alors, l'Allemagne, donc dans le sillage de la proclamation de la République de Weimar, donc les femmes obtiennent même le droit d'être élues. 1919 toujours, la Belgique, le Pays-Bas. Et 1920, dites-moi, le pays dont le président actuel a une virgule blonde sur la tête.
Ah, les États-Unis.
Yeah.
On le reconnaît, hein, c'est fou.
1930, si je vous dis apartheid.
Apartheid.
Du Sud. Oui, l'Afrique du Sud. Bon, il faudra attendre la fin de l'apartheid, justement, en 1994, pour que finalement tous les êtres humains, de toutes les couleurs, j'entends, puissent voter en Afrique du Sud. 1934, la Turquie, à partir de 22 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes, va comprendre. Hein. Ensuite, petite pause sur cette frise chronologique du droit de vote. Bon, pour que je reprenne un peu mon souffle. Et aussi parce qu'il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour une reprise de la conquête du droit de vote féminin. Donc reprenons. Attention, vous êtes prêts ? 1944, avec le premier vote féminin l'année suivante. Devinez quel est le pays dont les femmes se voient enfin accorder le droit de vote, bande de guillerets chauvins et guillerets chauvines que vous êtes ?
La France.
Oui, la France, pays où le droit de vote a été accordé aux hommes dès 1848 et en 1944 aux femmes, ce qui fait un écart temporel quand même de 96 ans. Je vous fais remarquer que notre pays, le pays des droits de l'homme, ne fut pas précurseur dans ce domaine, malgré la remarque sanglante dès 1791 de notre Olympe de Gouges qui disait donc la femme a le droit de monter sur l'échafaud, et bien elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Bref, no comment. Continuons sur notre vague déferlante du droit de vote attribué aux femmes. 1945, donc Italie. Dommage, elle l'avait dès 1919, les femmes, ce droit de vote, mais la dictature mussolinienne est passée par là. 1947, le Japon. Et en Espagne, dites-moi, quelle année ?
1931.
Yes, 1931.
Mais là, on est en Back to the Future, là. Du coup, on était en 47, 8, et tu nous fais redire.
Eh ouais, mais je vais vous expliquer pourquoi. 1931, parce que ça a été abrogé à partir de 39 par la dictature franquiste, bien entendu, une dictature encore. Et en 1946, accordé à nouveau, mais qu'aux femmes mariées. Bizarre cette histoire, hein. Bref. Et enfin, les Espagnols ont pu voter, mariés ou pas, à partir de 1975, vous voyez ?
À la fin de la dictature.
Donc il y a toute une histoire là. Et en 1965, plus personne n'y vote depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en 1921. Mais les droits des femmes, elles l'ont eu en 1965. Oui, j'ai entendu.
Afghanistan ?
Oui, l'Afghanistan, effectivement.
Bien joué, Elsa.
1971, la Suisse, 76, le Portugal, deux ans après la révolution des œillets, mettant fin à la dictature, encore une salazariste cette fois. Et hop, faisons ensemble un grand saut temporel pour nous retrouver en 1999 avec le Qatar, 2005 avec le Koweït, si la femme se conforme à la norme islamique, 2011 en Arabie Saoudite, avec mise en pratique en 2015. Bref. On peut dire donc que depuis 2011, dans tous les pays du monde où il y a des élections, je précise, les hommes et les femmes peuvent voter.
Mais en même temps, ça sert à quoi d'avoir le droit de vote dans des pays où il n'y a pas d'élections ?
C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, on pourrait faire un fake, tu vois, je sais pas. Donc, avec une exception. Alors, où est-ce qu'on peut voter, mais où les femmes, de toute façon, ne voteront pas ? Petite exception.
Ça y est, j'ai trouvé.
Vatican.
Oui, le Vatican.
Un pays où il n'y a pas de femmes, ça va. Voilà.
Alors, comme les femmes, justement, effectivement, ne peuvent pas être ordonnées prêtres ou plutôt prêtresses, les élections sont réservées aux hommes. Quoique, bon, vous avez entendu parler de la papesse Jeanne ?
Non.
Non, bon, je vous la présenterai peut-être lors d'une prochaine chronique. En attendant, regardez le film Conclave. C'est un film récent et très éclairant sur le système électoral du Vatican qui a permis encore récemment d'élire notre nouveau pape, Léon. Léon combien déjà ?
14.
Ah oui, 14.
Comme Louis.
Ah, comme Louis XIV, sauf là, c'est un Léon.
Le pape soleil.
Oh. Eh bien, on va voir, l'avenir va nous le dire. Et donc, pour revenir sur le film, je vous dis juste que la fin est croustillante, mais bon, je ne vais certainement pas vous spoiler.
Alors, petite
conclusion, un brin moralisatrice. Continuons à voter pour des idées, c'est peut-être mieux que d'en mourir. J'espère que vous l'avez, la ref, la chanson de
Brassens.
Oui, Georges, de son prénom. Bref, des idées respectueuses de soi et de l'autre avec un grand A. Évitons donc la destructrice dictature. À bon entendeur et entendeuse, bonne journée. Et bon appétit à midi. Hein.
J'allais dire, si avec ça vous n'êtes pas réveillé, je ne comprends pas. Hein. Au cas où, quand même, on a prévu une petite musique que Fatih a choisie, qui s'appelle « Au nichon citoyenne
oh »
des Coquettes. Voilà. Donc vous aurez écouté ça, alors là, c'est bon, hein, vous serez parti pour la journée.
Non, j'assume pas. Hein.
Non, 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 ce n'est pas la taille qui compte, non. Ouh, non, 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 ce n'est pas la forme qui compte. C'est pas la compète, t'es con. Pas raison, t'es complexe, t'inquiète. Ouh, tu sois modeste ou tu clapettes. T'as tiré le gros lolo. Fais voir ce que t'as sous ton capot. Ouvre en grand ton manteau. C'est pas mal ça. C'est puissant, pas porno. T'es nichon, tu peux me croire. On est super fous.
regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la mama, moi la guerrière, et pas que ta putain. Ton droit devant, omniscient citoyenne. Et toi petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Non, non, à toi qui n'as plus qu'un sein. Ouh, non, non, t'es pas moins du genre féminin, t'es pas une meuf moins un. Fais gaffe, notre gang de bonnet, il est gonflé à bloc. Balais pas tout, je te malmène, je te balance mes baleines. Et si ça suffit pas, on fera tomber le bas. Et toi petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la mama, moi la guerrière, et pas que ta putain. Ton droit devant, on est chanceux. Regarde-moi, regarde-moi dans les seins. On est chaud citoyens, formez vos bataillons. Pointons, pointons, tétons devant, nourrissons nos enfants. Et toi petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la mama, moi la dernière, et pas que ta pute. Que ta putain, ton droit devant, on est chanceux. Mais toi petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins.
Ça bouge cette petite musique et nous voilà de retour dans Graphite avec notre matinale
infernale.
Après toutes ces vagues et cette rébellion, je pense qu'il est je vais y arriver. Il est temps d'aller se balader, bien sûr.
C'est un petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
Bonjour à toutes et à tous. La marin baladeuse et gourmande vous invite de nouveau à cheminer aux côtés de Marcel Proust et à déguster peut-être. Voulez-vous me suivre sur le lac Léman près de Genève, dans le splendide hôtel d'Evian, lieu chic de la station thermale? La famille de Marcel Proust se réunit durant plus d'un mois sous les stucs et les lustres somptueux, du splendide, un joyau de l'hôtellerie de Haute-Savoie. Marcel y écrit « Si vous m'écrivez splendide hôtel Evian-les-Bains, que vous m'aimez un peu, vous réconforterez votre triste et malade ami Marcel Proust. Ce qui est formidable, autant qu'un exploit, le bâtiment est sans fondation, aucune. Marcel soigne toujours son asthme invalidant. Mais comment se rend-il dans ce palace juché sur une colline? Grâce au tramway, le patache, lancé en 1898. Il cessera ses remontées 10 ans plus tard avec l'arrivée du funiculaire qui pallie l'inconvénient de la forte pente. L'hôtel a été lancé par Napoléon III et Eugénie. Les Anglais ont suivi. On y croise aussi Sarah Bernhardt et Gustave Eiffel. Mais pas dans la même chambre. Attention. Rien n'est certain. Marcel souhaitait un hôtel qu'il décrivait ainsi. Assez vide pour qu'on y puisse avoir une chambre isolée, où l'on puisse dormir aussi tard qu'on veut, sans entendre marcher au-dessus de sa tête et dans les chambres contiguës. Au pied de cet extraordinaire monument coule la fabuleuse source, la source d'Evian. Enfin, Danone maintenant. C'est moins poétique, c'est... qui attire le monde.
Et que nous buvons.
Oui. L'hôtel a été rasé en 1983 car selon la Société des Eaux, il menaçait cette fabuleuse source. Marcel Proust y aura séjourné régulièrement de 1899 à 1905, au cours de la saison estivale. À l'époque, il n'est pas encore le grand auteur que nous connaissons. Il n'a pas même encore écrit une seule ligne de son célèbre roman, mais il a déjà rassemblé plus d'un millier de pages d'un récit qui ne sera découvert et publié que dans les années 50 et qui constitue la matrice de son futur chef-d'œuvre, Jean Santeuil. Et comment Marcel vient-il à Évian ?
En train.
En train, forcément.
Tchou, tchou.
De Paris, 1882, le PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui dessert deux arrêts à Évian. Gare de Lyon, on peut voir encore les fresques des destinations de cette fameuse ligne. Avant d'embarquer, Marcel se sustente à une table du fameux restaurant gastronomique Le Train Bleu, de la gare de Lyon, où l'on peut encore manger d'ailleurs. Le plus souvent, il ne fait que grignoter quelques bouchées, bien qu'il ait eu un goût particulier pour les mets délicats et les gourmandises qu'il note ainsi dans ses œuvres. L'incontournable Madeleine de la tante Léonie, dégustée dans un amour de Swann. Des œufs brouillés au lard et du homard à l'américaine de Jean Santeuil. Des haricots verts et tendres de La Prisonnière. De la bouillabaisse de Sodome et Gomorre. Du bœuf à la gelée de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. De la glace à la vanille des Guermantes. Du riz à l'impératrice, des crèmes au chocolat. De la simple salade de pommes de terre du temps retrouvé, de l'énigmatique salade japonaise qu'Odette de Crécy mange dans du côté de chez Swann, des rougets et du risotto de la fugitive, du poisson cuit dans un courbouillon apporté dans un long plat en terre et des perdreaux exquis évoqués dans le côté de Guermantes. Pour terminer cette chronique, je vous propose de méditer une des citations de Marcel. Si un peu de rêve est dangereux, le remède n'est pas de rêver moins, mais de rêver plus, de rêver tout le temps. À bientôt.
Là, tu vas inciter nos auditeurs à se rendormir avec cette citation méditative.
En pensant au repas du midi.
Oui. Et d'ailleurs, cette salade japonaise, oui. Elsa, elle ne nous en a pas parlé. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit un plat traditionnel. Non, je rigole. Mais comme quoi, même à l'époque, du coup, on pouvait manger des salades japonaises.
Ah oui, absolument. Oui.
C'est formidable.
D'Odette de Crécy.
Batcave, tu vas nous plomber le moral, là ?
Bah, j'espère bien, c'est un petit peu l'objectif.
C'est un peu l'objectif.
Salut les amis, moi c'est Batcave. Laissez-moi plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prendrez bien une petite cure de spleen. Mais si, c'est excellent pour la santé. Ces derniers jours, je lisais encore un livre pas vraiment jouasse. Un roman publié en 1945 racontant la vie d'un groupe de partisans planqués dans une forêt d'Europe centrale durant l'occupation nazie. Faim, froid, mitraille, trahison. Et pourtant, ce roman ne parle pas tant de la guerre que ce qui nous pousse à continuer, à croire, à tenir. Parmi les personnages, un écrivain. Entre deux attaques allemandes, il rédige un roman sur... la vie d'un groupe de partisans cachés dans une forêt d'Europe centrale durant l'occupation nazie. Comme un petit air de mise en abîme, non ? Les plus littéraires d'entre vous auront peut-être reconnu ce roman. De quel roman s'agit-il ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas l'écrivain est très célèbre, l'auteur est très célèbre, mais le roman un petit peu moins. C'est pas son plus connu. Il s'agit de L'éducation européenne de Romain Gary.
Ah, ok.
Eh bien, c'est ce personnage d'écrivain qui m'a interrogé. Un soir, ses compagnons lui reprochent le ton optimiste et naïf de son roman. Il trouve que ça sonne faux, étant donné le contexte abominable de la guerre. Il répond alors « Il y a des moments dans l'histoire où tout ce qui nous empêche de désespérer, tout ce qui permet de croire et de continuer à vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. C'est parfois seulement une chanson, un poème, une musique, un livre. » Puis plus loin, il lâche cette phrase provocante. « Il n'y a pas d'art désespéré. Le désespoir, c'est seulement un manque de talent. » Et là, mes neurones post-punk ont sursauté. Attendez, quoi ? Le désespoir, un manque de talent ? Et Joy Division, Bauhaus, The Cure, on en fait quoi ? Toute cette noirceur géniale du post-punk, une approximation artistique ? Mais j'ai osé creuser et j'ai, je crois, compris. Gary ne nie pas la douleur. Il dit qu'un véritable artiste ne s'y arrête pas. Il la transforme, la retourne, en fait un moteur. L'art, pour lui, ne doit pas refléter le néant, mais offrir une issue, même fragile, même bancale. Il savait d'ailleurs de quoi il parlait. Résistant, aviateur, diplomate, Gary a vu l'horreur de près. Et pourtant, dans la lettre qu'il a laissée avant de mettre fin à ses jours en 1980, il a expliqué que la dépression l'accompagnait depuis toujours, mais que l'écriture l'avait portée. Tant qu'il écrivait, il tenait, il avait une mission. Et ça m'a fait penser à une chanson, post-punk bien sûr, qui dit le malaise du monde, mais sans céder à l'absurde. Vous la connaissez peut-être, « People are people » de Depeche Mode, sorti en 1984. Dès les premières mesures, le rythme est martial, métallique, presque industriel. Il reflète la dureté du monde. Puis la mélodie, mélancolique, et les paroles prennent le contre-pied. « People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully. » Un être humain est un être humain, alors pourquoi toi et moi devrions-nous si mal nous entendre? Et plus loin, tu me frappes, tu me donnes des coups de pied, tu cries, mais je compte sur ta bonne volonté. Je ne l'ai pas encore vue, mais je suis sûr qu'elle existe. Il faut juste le temps pour qu'elle passe de ta tête à ton poing. La chanson ne parle pas d'un conflit précis, elle parle de l'absurdité universelle de la haine. Et même dans ce son froid et tendu, il y a un appel. Elle fait exactement ce que Romain Gary demande à l'art. Elle ne nie pas la violence, mais elle refuse de la laisser avoir le dernier mot. Elle dit « on peut mieux faire ». Faisons confiance à la bonne volonté des êtres humains, à la « common decency » en anglais. C'est peut-être ça finalement le talent, faire entendre une voix de paix quand le monde hurle ou bien se tait. Et comme tous les grands morceaux, « People are people » a été souvent repris. Celle que je vous propose aujourd'hui, c'est la version du groupe français Nouvelle Vague, sortie en 2024. Voilà des artistes qui reprennent des classiques new wave et post-punk en mode jazzy et bossa nova. Et vous devinez quoi? Ça fonctionne. Parce que le message reste intact dans cette atmosphère en clair-obscur. Alors voilà, fans de post-punk, si on vous dit que la musique que vous écoutez est trop plombante, souvenez-vous de Romain Gary. Le vrai talent, ce n'est pas ignorer le désespoir, c'est le traverser, l'exorciser, en faire un refuge dans lequel on s'abrite pour reprendre des forces.
Oh waouh.
Wow. Merci.
Eh bien, après ça, je pense qu'on peut inciter nos auditeurs à continuer de rêver pour toujours faire mieux, n'est-ce pas?
Exactement. Oui.
Merci beaucoup à tous mes chroniqueurs du jour, Elsa, Fatih, la marin baladeuse et Bad Cave. On va laisser nos auditeurs se lever en paix maintenant et puis leur souhaiter un bon week-end.
Bon week-end.
Bon week-end.
À toutes et à tous.
Oui, bien sûr. Et on écoute People Are People pour se quitter sur un petit air de bossa nova, jazzy ouais. Bossa nova, t'as dit. Hein. Allez, c'est parti.
Different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong. I've never